Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va donc parler de ce sujet, ou plutôt on va répondre à cette question: à quoi ressemble un millionnaire français? Ça va être une émission qui va être composée en trois parties. Première partie, nous allons définir ce qu'est un millionnaire en France. Deuxième partie, nous allons voir à quoi ressemble donc le millionnaire français, quelle est sa composition. Et en dernière partie, nous allons opposer, si je puis dire, les 20 choses qu'il y a à faire, en fait, qui sont recommandées à faire si on veut devenir millionnaire. Et moi, je vais en même temps contre-argumenter ces choses-là. C'est-à-dire que j'ai pris 20 conseils qui ont été donnés, 20 conseils divers et variés qui peuvent être donnés de manière usuelle pour que tu deviennes millionnaire. Et moi, je vais un petit peu donner mon avis, mettre mon grain de sel. Enfin bref, je vais être là, on est dans la place. Mais avant de commencer, je te rappelle, et ça me ferait super plaisir que tu prennes le temps, ces quelques petites secondes, pour me mettre une note à ce podcast et me laisser un commentaire. Et ça fait beaucoup, je sais, mais parle de cette émission à une personne autour de toi. Ça m'aide mais énormément. Tu dis: hey mec, file-moi ton téléphone, écoute ça, ça va changer ta vie, ça va changer la mienne, c'est génial. 30 secondes pour toi, ça change tout pour moi et ça me permet de continuer ce que je fais, tu vois, c'est cool, c'est comme ça que ça marche, hein. On va pas, bon, allez, en dehors de tout ça, toujours pareil, tu vas sur le site, si tu veux travailler avec moi, si tu te dis: bon, ce mec m'intéresse, j'aimerais qu'on bosse ensemble, j'aimerais qu'il fasse de moi un millionnaire, parce que oui, je peux faire de toi un millionnaire. Tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, il y a un onglet programme, il y a un onglet livre, parce que oui, parce que j'écris des livres aussi, et tu achètes un livre ou un programme, et par ce vecteur, on va se rencontrer. Et oui, parce que quand tu prends un de mes programmes, j'ai pas assez communiqué là-dessus, mais en fait, tu as un accès inclus dans chacun des programmes pour venir passer une journée dans mes bureaux. Voilà, c'est tout est dit et donc nous allons tout de suite attaquer. Alors, qu'est-ce qu'un millionnaire? Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'un millionnaire? Alors, il y a une... la définition d'un millionnaire, c'est quelqu'un qui possède 1 million d'euros d'actifs nets dans sa poche. Ça, c'est la définition qui met tout le monde d'accord. Sauf que... il y a le patrimoine net et il y a le patrimoine brut. Donc, on peut très bien te dire, par exemple, moi j'ai 1 million d'euros, je suis millionnaire et en vérité, tu as 900 000 euros de crédit. Donc, tu as potentiellement adossé à ton nom, effectivement, ce million d'euros puisque, en fait, 1 million d'euros, c'est la base, quoi, j'ai envie de te dire. Mais, la vérité, c'est que si c'est pas payé, c'est pas à toi. Donc, ce détail crée la différence. Et effectivement, donc dès que tu as 1 million d'euros, tu es millionnaire. C'est aussi simple que ça. Et donc, si tu soldes pour 1 million d'euros d'actifs, tu peux chanter sur les toits que tu es millionnaire. Et c'est vraiment une réalité. Alors, je ne vais pas t'en dire plus sur ce sujet parce que après, nous allons effectivement avoir à la fin, donc la troisième partie des différents conseils, et je te donnerai justement un avis sur ce sujet qui est une erreur que font beaucoup de personnes, ou en tout cas beaucoup de personnes donnent des conseils et s'égarent sur le sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, mais t'inquiète pas, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, millionnaire, c'est quelqu'un qui possède un patrimoine environ supérieur et ou d'environ 1 million d'euros net, voire plus, enfin plutôt plus, parce que si tu n'as que 900 000 euros, bon, tu peux te considérer comme millionnaire, mais tu ne l'es pas vraiment en fait. Bon, bref, tu as compris l'idée. Bon, aujourd'hui, d'accord, il y a 53 millions de millionnaires dans le monde, tout en sachant qu'il y a quelques années en arrière, il y avait 38 millions de millionnaires. Donc, c'est une catégorie sociale qui n'a de cesse d'augmenter et je trouve ça normal parce que, effectivement, la technologie, le monde moderne nous permet de nous enrichir beaucoup plus facilement qu'avant. C'est une réalité et c'est comme ça. Dans ces individus, j'ai employé un terme animal, mais dans ce groupe, d'accord, tu peux considérer qu'il y a à peu près 90 personnes, qu'est-ce que je raconte, j'ai dit 90% des spécimens, d'accord, sur les 53 millions de millionnaires, il y a 90% des individus qui détiennent entre 1 et 5 millions de dollars. Ce qui veut dire que dans la famille des millionnaires, le plus gros se situe entre 1 et 5 millions de dollars. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre que finalement, comme très souvent, tu as une minorité qui va exploser les chiffres. Donc, les 10% qui restent vont avoir 50, 100, 300, 500 millions de dollars d'actifs et tu vas avoir 90% du reste de la mêlée qui se situe vraiment, vraiment très en dessous. Ce qui veut dire que, alors encore une fois, la répartition est inégale. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est marrant, je vais ouvrir une parenthèse, parce que bon, dans notre pays, nous n'aimons pas les riches, n'est-ce pas ? Mais tu te rends compte qu'il y a les mêmes problèmes chez les riches que chez les pauvres. Je suis désolé, c'est très arbitraire ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, en gros, les riches, répartissent leur richesse entre eux de la même manière que les pauvres ont la sensation qu'elle est répartie entre les riches et les pauvres. Alors je sais ce que tu es en train de te dire, mais Nicolas, c'est débile ta réflexion parce que quand on est millionnaire, tout va bien. Détrompe-toi. Je vais te donner un exemple que j'ai déjà donné dans une autre émission, pour ne pas la citer, celle où je parle de l'ISF pendant à peu près une heure. C'est toujours ce fameux cas d'école dont on parle à chaque fois, qui est le cas de l'île de Ré. Donc je prends un cas français, bien évidemment, mais il faut savoir que dans l'île, enfin que si tu possèdes une maison à l'île de Ré, tu te trouves donc carrément, mais dans les 90% de ces individus qui détiennent entre 1 et 5 millions de dollars d'actifs, et pour autant tu n'es absolument pas riche. Même j'ai envie de te dire, t'es dans la merde, mon ami. T'es dans la merde. J'aimerais pas être à ta place. Bref, l'idée c'est de bien comprendre que effectivement. Tu ne peux pas considérer que parce que tu es millionnaire, tu n'as pas de problème. Bien au contraire, détrompe-toi. À chaque niveau, chacun a ses problèmes. Certes, tu vas me dire, les problèmes des riches restent des problèmes de riches, mais un problème reste un problème. Il est à l'échelle de la personne qui le supporte. Et ça, bon, c'est très difficile à expliquer et à entendre, mais c'est une réalité. Bon, continuons sur les chiffres parce que j'ai envie de te donner des données intéressantes dans cette. J'ai envie de te donner des données, c'est pas très cool. J'ai envie que tu aies des informations qui soient intéressantes. 1,7 million de millionnaires en France. Voilà, je voulais que tu saches combien sur les 53 millions finalement de millionnaires il y a dans le monde. Ben voilà la répartition, il y en a 1,7 qui sont français. Alors, tu serais peut-être intéressé de savoir la répartition mondiale. J'ai pas envie de rentrer dans ce détail, sinon l'émission va durer des heures. Sache simplement que la grande majorité des millionnaires comme des milliardaires, enfin la grande majorité des richesses est acquise, détenue par des pays anglophones. Donc partout où ça parle anglais. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu crées une société dans un pays anglophone, tu vas tout de suite faire beaucoup plus d'argent que dans n'importe quelle autre langue. Après tout, c'est une langue universelle. Ça te permet de toucher le monde entier. Mémorial, retour en arrière, petite parenthèse. Je veux juste que tu saches que le premier milliardaire, c'est bien évidemment notre ami John Davidson Rockefeller. J'ai un lien tout particulier avec cette personne. Il est très simple ce lien, tu vas comprendre. En fait, en réalité, tu ne le sais peut-être pas. Je n'ai jamais parlé de ça d'ailleurs à aucun moment. Ma chaîne YouTube a été créée, il y a quand même une paire d'années ma chaîne YouTube, et c'était moi qui avais mis en ligne un reportage sur la famille Rockefeller qui avait été repris, remis en ligne, et moi mon reportage avait fait, je dois pouvoir te donner les chiffres parce que j'y ai accès en fait, j'avais fait des centaines de milliers de vues avec ce reportage à l'époque, et c'est vrai que du coup, ma chaîne est très, 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 très bien référencée sur les Rockefeller. C'est d'ailleurs pour ça, c'est pour la petite histoire, comme ça tu vas apprendre des choses dans cette émission. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une émission, enfin, une espèce de mini truc bizarre sur Rockefeller, que d'ailleurs certains n'avaient pas vraiment compris pourquoi j'avais fait ça sur ma chaîne. Bien voilà, en fait, tout simplement, à l'époque, quand j'avais en tout cas commencé, j'avais effectivement mis ces reportages. Alors, pour te donner les chiffres, je vais te les donner tout de suite. Donc, concernant ces vidéos, il y en avait trois et les trois vidéos représentent à elles seules plus de 300 000 vues cumulées. Voilà. Et c'était mes premières vidéos. La date de sortie de ces vidéos, c'est 2013. Et donc, c'est pour ça que ma chaîne, pendant très longtemps, a été très, 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 très bien référencée sur les noms de Rockefeller. Voilà. Et bon, je reviens à nos moutons. John Davidson Rockefeller a été l'homme le plus riche du monde et qui a donc été considéré comme milliardaire. Parce qu'à l'époque, quand il est devenu l'homme le plus riche du monde, c'était lui qui avait la fortune la plus colossale. Même si, j'en parle d'ailleurs dans le petit reportage que j'avais fait, à cette époque-là, il y avait Andrew Carnegie, je ne sais pas comment il faut dire, qui lui aussi avait quand même, enfin qui je pense d'ailleurs était sûrement, c'est pas je pense, c'est les documents qu'on a, qui était sûrement le premier milliardaire, mais qui n'a pas été aussi, je ne sais pas dire médiatisé, mais il n'a pas eu la même aura que John Rockefeller. Et donc du coup, bon, ben, c'est notre ami John qui lui a hérité un petit peu de ce premier symbole de milliardaire. Voilà, le vrai premier milliardaire, c'est John Davidson Rockefeller, celui qui a été le plus connu. Ok ? Donc maintenant, on va se pencher sur la deuxième partie de cette émission. On va voir, maintenant qu'on a défini ce qu'était un millionnaire, on va voir vraiment comment se compose un millionnaire. Alors, déjà, avant qu'on attaque cette partie-là, c'est vachement important que tu intègres une notion hyper importante, c'est que la structure de tous les patrimoines se décompose de deux façons. Tu as d'un côté des flux et ça s'oppose avec le stock. Il faut comprendre que ce qu'on appelle un flux, c'est un revenu, c'est qu'est-ce qu'on gagne tous les mois. Et ce qu'on appelle le stock, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette notion d'actif. Et du coup, ce que tu dois arriver à bien intégrer dans ton esprit le plus rapidement possible, c'est vraiment que le flux et le stock peuvent n'avoir aucun lien entre eux, comme ils peuvent avoir des liens entre eux. Ça, c'est la première des notions que tu dois intégrer. Et ensuite, tu peux très bien posséder que l'un ou que l'autre, et pour autant ne pas être considéré comme riche. Alors, je vais tout de suite, je crois que je vais commencer par là, je vais commencer par te donner une règle mathématique, si je peux dire, en tout cas une règle reconnue qui fait que, on va dire que tu fais partie des 1%. Tu sais, ce fameux 1% dont tout le monde parle, en français, on est bien d'accord. Moi, je parle de la France. Je suis en France, tu es en France, on est en France. Après, c'est ce que je te donne là, c'est différent dans tous les pays. Je ne suis pas là pour parler d'autres pays. Moi, je parle de la France. Donc, en France, pour faire partie des 1%, okay, il te faut un revenu annuel, ou en tout cas, une masse de flux, un flux, voilà, égal ou supérieur à 90 000 euros par an. Donc, si tu gagnes 90 000 euros par an, tu commences à rentrer dans la tranche du 1%, mais tu n'y es pas. Il faut après y opposer le stock. 90 000 euros par an, peut-être que tu te poses la question, c'est 7 500 euros par mois. Donc, si tu as 90 000 euros par an de revenus, tu es dans la catégorie, en tout cas, tu es à 50%, tu as un pied dans la catégorie des 1%. Maintenant, la deuxième partie qui est, j'ai envie de te dire, indissociable pour arriver vraiment à être dans les 1%, c'est d'avoir plus de 2,5 millions d'euros nets d'actifs. Donc ça veut dire que tu retires toutes tes dettes, tu regardes l'ensemble de ce que tu possèdes et tu dois avoir plus de 2,5 millions d'euros nets d'actifs. Et si tu as ces deux éléments dans ton patrimoine, alors tu fais partie des 1%. Welcome, bienvenue dans le monde des riches. Mais est-ce que tu es riche? On va en parler, t'inquiète pas, c'est un petit peu le sujet. On va maintenant repartir de la base, on va commencer par les flux. Et après, on parlera du capital, même s'il y a beaucoup moins de choses à dire, on va être très clair. Donc, je vais te donner maintenant tout de suite un petit peu des chiffres avec un petit peu voilà, des éléments qui peuvent être, je pense, intéressants pour toi. Alors, en gros, le revenu médian dans notre pays, on va partir sur le SMIC, on oscille entre 700 et 1500 euros. Pourquoi je prends des revenus aussi bas? Parce que tu vas me dire, non mais Nicolas, le SMIC c'est 1100, je connais pas le montant précis. Moi j'avais 1086 euros en tête, mais je sais que ça a évolué depuis, donc ça a un petit peu augmenté. Mais j'ai ce chiffre en tête, d'accord? D'ailleurs, je parle de revenu médian, ma langue a fourché, je vais reprendre. Donc le SMIC, c'est dans les 1080 euros, peut-être un peu plus. Et puis, tu as un revenu médian en France qui, en fonction des personnes avec lesquelles tu parles, évolue. Moi, j'ai en tête, et je n'ai pas fait de recherche là-dessus parce que je sais que ce chiffre est discutable. Moi, on va partir sur 1800 euros. Pour moi, c'est ça le revenu médian. Voilà. Mais c'est discutable, c'est une question de tout un tas de choses. Mais on va partir sur ces données-là. Et après, tu les ajustes un petit peu en fonction de quand tu écoutes et des évolutions. D'accord ? Faut savoir qu'une personne seule en France, elle peut gagner de 700 euros. Moi, j'ai été étudiant et j'ai gagné 746 euros par mois en étant à mi-temps. Je faisais 25 heures. J'ai vécu cette vie-là et j'étais pas malheureux. Hein. Attention, hein, moi, je veux que les choses soient claires. Je suis pas un mec qui va se plaindre. Déjà, au départ, j'ai agi pour pas avoir à me plaindre. Et deuxièmement, j'étais pas malheureux. Hein. Voilà, j'ai gagné cette somme-là. Ok, j'avais fait des investissements avant, j'en ai fait après et j'en ai fait pendant. Il faut que tu saches qu'avec ce revenu-là, j'ai fait des investissements. Il n'y a rien qui doit t'arrêter. La réalité, c'est que pour bien jouer à un jeu, on joue avec le jeu qu'on a. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais se plaindre ne sert à rien. Faire avec ce qu'on a, c'est l'idéal. Petite parenthèse, un jour, j'ai un client qui m'appelle, il était dégoûté, il avait droit à 50 000 euros de crédit. Il m'a dit, j'ai droit qu'à 50 000 euros, je ne vais rien pouvoir faire. Ben, j'ai dit non, tu as droit à 50 000 euros, c'est génial, on va faire avec. Il était surpris, ben, on a fait avec. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que fais avec ce que tu as. Arrête de te dire, lui, il a plus, moi, j'ai pas assez, ou moi, j'ai trop, machin, ça suffit ce que j'ai. Non, tu fais avec ce que tu as et tu avances. Bon, bref, on arrête la motivation, on attaque le sujet. Revenu médian, 700 euros. Moyenne nationale, 1700, 1900 euros. Ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie populaire. Donc, en gros, de 700 à 1900 euros, ces revenus-là en termes de flux te classent dans la catégorie populaire. Ce sont des données qui sont arrêtées par l'État français. Et il faut savoir que dans ces catégories-là, tu peux trouver autant des personnes seules comme des familles monoparentales, des couples sans enfants, des couples avec un enfant, des couples avec deux enfants et des couples avec trois enfants et plus qui ont ces revenus-là. Okay ? Ensuite, dans la classe moyenne, ce qu'on va appeler la classe moyenne, on va se situer à 3000 euros à peu près, début de la classe moyenne, et on va aller jusqu'à 5600, 5700 euros. Et je veux préciser qu'on retrouve ces revenus à partir de couples avec un enfant, d'accord ? Et que toujours dans cette classe moyenne, très souvent les personnes seules, voilà, dans les maximums de revenus courants, je vais prendre juste la personne seule, par exemple, on va prendre une personne seule, tu vas avoir un salaire national français qui est aussi entre 700 et 3000 euros. Tu vas avoir peu de gens seuls qui vont gagner plus que ça. Donc déjà, si tu m'écoutes et que tu es une personne seule et que tu gagnes 5 ou 6000 euros, quelque part en termes de flux, tu es dans le haut du panier. C'est là que c'est très intéressant, c'est que la composition du foyer va influer aussi sur la catégorie sociale dans laquelle tu te situes. Et donc du coup, je vais dire un truc qui va te choquer, mais si tu gagnes 3100 euros, voilà, allez, 3500 euros, et que tu es une personne seule, eh bien, on peut te classer dans la catégorie des gens aisés, voire début des riches. Alors tu vas me dire, mais non, je suis pas riche, tu dis de la merde. Oui, non, mais c'est des stats, mec. Moi, je suis en train de te donner des statistiques. Ça veut pas dire que c'est vrai, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de te dire, attention, tu es riche, tu as 3500. Non, je te dis pas ça. Je te dis juste qu'il y a des stats et que si on se réfère à la moyenne nationale, ben, c'est une réalité. Après, tu peux ne pas être d'accord, on peut discuter, blablabla. Et de la même manière, si tu es en couple et qu'en couple, tu gagnes, je vais te dire une connerie, hein, mais tu gagnes, par exemple, vous êtes un couple et tu gagnes 4900 euros, ben, tu es dans la classe moyenne. Alors qu'à 5070 euros, tu es au début de la classe aisée. C'est des statistiques, c'est arbitraire. On essaye de te rentrer dans une case. Moi, j'ai horreur de ça. Je te le dis direct, je suis d'accord avec toi, c'est affreux. Parce qu'en réalité, je te donne un exemple, tu vas gagner 3100 euros par mois, tu as eu un héritage, tu as 10 millions d'euros d'héritage, ben en réalité, tu es riche, quoi. Donc, ce que je dis, on est bien d'accord, ça ne veut rien dire. Tout est objectable, tout est discutable. Moi, j'essaye de te donner des statistiques de flux. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, la réalité de la statistique, c'est que au-delà de 3500 euros, je vais un peu augmenter les stats que j'ai devant les yeux, en gros, tu es dans la catégorie riche si tu es une personne seule. Si tu es un couple sans enfant, écoute bien ce que je te dis, d'accord ? Et que tu gagnes plus de à peu près 5000 euros, tu es dans la catégorie des riches. Et si tu es un couple avec deux enfants et que tu gagnes plus de 5800 euros par mois, tu es aussi dans la catégorie des riches. Sachant que, toujours dans les statistiques, on a actuellement en France des couples avec deux enfants qui peuvent gagner jusqu'à 7852 euros, ça c'est dans la moyenne, et qui, pour la catégorie populaire, gagnent 1900 euros avec deux enfants. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as deux catégories socio-professionnelles qui gagnent de l'argent et qui font avec ce qu'ils ont. D'accord ? Donc, on est d'accord qu'on va dire qu'il y a un seuil, ok, actuellement, on va dire qu'il y a un vrai seuil à 5000 euros de revenus pour tout ce qui est les couples. À partir du moment où vous êtes en couple, si toi tu as une nana et que vous gagnez votre vie, que vous gagnez plus de 5000 euros à deux, vous êtes dans la catégorie des gens aisés, début des riches. Et si tu es seul et que tu gagnes plus de 3000 euros, 3100 euros, tu es riche. Ça, c'est les stats. Bon. Voyons maintenant une étude qui a été réalisée en opposition à ça et qui est plus du ressenti, de l'opinion des gens. Quand tu vas arrêter quelqu'un dans la rue et que tu vas lui dire à partir de combien les gens sont riches, tu vas arrêter quelqu'un dans la rue, tu lui dis à partir de combien tu es riche, enfin tu considères qu'une personne est riche en termes de revenus, les gens vont répondre en moyenne 5000 euros. Donc ça veut dire que si on prend le ressenti des gens dans la rue et qu'on leur demande combien tu crois qu'une personne est riche, il va dire 5000 euros, ce qui est intéressant parce qu'on rejoint les stats. C'est-à-dire que, en gros, pour faire simple, les statistiques que je viens de te donner juste avant correspondent plus ou moins finalement au ressenti qu'on va avoir. Et c'est hyper intéressant, je trouve, socialement, parce que ça veut dire qu'on vit tous dans la même société et on a quand même conscience qu'il y a des revenus qui permettent de faire certaines choses et que d'autres revenus ne le permettent pas. Et je trouve ça très intéressant que finalement, on ait cette visibilité qui se rejoint alors que ça reste que de la sensation, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Alors maintenant, pour toujours rester dans cette veine-là, on va parler un petit peu du fameux 1%. Mais là, je parle des revenus, hein, on est bien d'accord, je suis toujours dans la catégorie des flux. On va attaquer un petit peu la partie des salaires et des fameux 1%. Quand on parle de ça, on parle des super riches du CAC 40, les super riches du CAC 40, les énormes revenus. En fait, en réalité, moi, je vais te dire une chose qui est un petit peu difficile à entendre, c'est que je crois que toute cette histoire de riches, c'est ni plus ni moins qu'une manipulation de plus pour essayer de nous diviser entre nous. Je pense que à un moment donné, on est tous intelligents, que bien évidemment qu'on comprend qu'à un moment donné, un mec qui va gérer une entreprise de X milliers de salariés à la tête de la société ne peut pas avoir le même revenu que le mec en bas de l'échelle. J'aime pas parler comme ça parce que ça fait péjoratif, ça fait vraiment réducteur. Moi, je veux pas que tu crois que je minimise les gens en bas, au contraire. Je comprends très bien que ces gens-là sont nécessaires à l'entreprise, mais il faut comprendre que moi, j'aime bien comparer les choses à la guerre. À la guerre, tu as les stratèges et tu as les soldats. Les stratèges savent que quand ils font des mouvements, il va y avoir des morts en face d'eux. Et c'est marrant parce que tu pourras jamais... Il n'y a pas de règle empirique dans la vie, mais c'est difficile de demander à un soldat d'être un stratège et c'est très difficile de demander à un stratège d'être un soldat. Et il faut comprendre que ton corps a un cerveau et des membres et ton cerveau ne sera jamais ton estomac et ton estomac ne sera jamais ton cerveau. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut accepter qu'on a tous des compétences très différentes et que ces compétences unies créent le tout qui fonctionne et désunies, ben, ça ne fonctionne plus. Et je crois que c'est ce problème-là qu'on a en fait, c'est de comprendre que bah oui, ok, moi je suis un stratège et toi tu es un exécutant, accepter sa condition. Et malheureusement, un stratège ne sera jamais qu'un mauvais exécutant et un bon exécutant ne sera jamais qu'un mauvais stratège. Et je vais te raconter très rapidement et après je finirai le sujet parce que moi j'aime bien les écarts. Je vais te raconter comment, quand j'étais salarié à mi-temps, quelle est la discussion qui a fait que j'ai eu ma promotion. En gros, si tu veux, j'étais vendeur de chaussures à mi-temps, tu vois, le truc, rien à voir, quoi. Tout ça pour passer un diplôme, je me faisais bien chier, j'avais bien honte, je croisais des clients à moi, je peux t'assurer que ça m'a appris la vie, hein. J'ai perdu. Si j'avais la grosse tête, pendant ces 3 années d'études, je l'ai perdu, hein. Quand tu mets les chaussures, quand tu vends des chaussures à ton archi, quand tu vends des chaussures à tes locataires, quand tu vends des chaussures à des gens tout autour de toi, à qui tu as un rapport social au départ supérieur et que tu te mets à genoux pour leur mère, je te jure, ça m'a appris la vie, ouais. C'est clair que, bon, bref. Et un jour, il y avait mon patron, il était à côté de moi, on discutait et j'ai eu cette réflexion, j'y ai dit, à la guerre, c'est con d'avoir un gars qui a une compétence spécifique et de le mettre à un autre poste et de ne pas en tirer parti. Je ne sais plus quel exemple j'y avais donné à ce moment-là, mais j'avais fait cette analogie en parlant de moi, en fait. J'avais fait comprendre à mon patron que moi, j'avais des compétences et qu'aujourd'hui, je vendais des chaussures, mais que s'il m'avait mis à un autre poste, j'aurais rapporté 3 fois plus d'argent. Et le jour où j'ai posé ma dème, en fait, je m'en rappellerai toujours, en fait, je suis pas allé pour avoir une promotion, hein, c'est vrai, en plus, c'est la réalité de ce que j'ai vécu, hein. Je suis allé voir mes patrons en leur disant, voilà ma démission, je m'en vais. Et je me rappelle très bien, mon employeur m'a dit, je me souviens de votre discussion, j'aimerais quand même vous proposer un poste correspondant à vos compétences et j'ai eu le poste. Ça a duré que 6 mois, mais c'était voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma promotion quoi. Enfin, si on peut parler d'une promotion, j'ai eu ce que je voulais quoi. Et lui aussi, on a eu tous les deux ce qu'on voulait et j'ai été payé pour ça et lui a gagné de l'argent, plus d'argent avec moi à ce poste qu'à mon ancien poste. Et ce qu'il y a de très amusant, c'est qu'on fait la même chose avec les riches. Et le lien avec mon histoire de flux, c'est que la question que maintenant on doit se poser à ce stade, c'est est-on réellement riche avec 3, 5 ou 10 000 euros ? Est-ce que c'est ça être riche ? Est-ce que tu penses que c'est ça la richesse ? Alors moi, je te l'ai dit au début, tu as un peu la moitié de la réponse. La richesse, c'est le flux et le stock. Mais je vais te le dire tout de suite, c'est pas la richesse. Il faut que tu saches qu'un revenu de pharmacien, tu prends un pharmacien, c'est une petite société, je pense que tu es d'accord avec moi. Un pharmacien en France, ça gagne 200 000 euros par an. C'est à peu près les mêmes revenus qu'un notaire. Les notaires gagnent un peu plus que ça. Donc, ça te donne une notion de revenu, OK ? Et ce qui est hyper amusant, c'est que quand tu prends un patron d'entreprise, il va gagner forcément, enfin, dans la logique, si sa société marche, il va gagner beaucoup plus d'argent que ça. Et donc, non, enfin, pour moi, en termes de revenus, c'est pas ça, être riche, quoi. Et je crois que ce qui est hyper intéressant avec la France, c'est que les vrais riches, le fameux 1%, n'a pas intérêt à ce que les autres sachent la réalité de la chose. Et je crois que notre problème vient du fait qu'on accepte mal cette réalité-là. Le fait que certaines personnes vont être capables de gagner beaucoup plus d'argent que d'autres. Bref, je vais arrêter avec les flux parce que ça pourrait durer des heures. C'est un sujet que j'adore. Donc voilà, je t'ai donné une notion de flux. Maintenant, je vais te donner beaucoup moins documenté. Je te l'avais dit, la partie des stocks est beaucoup moins intéressante. En termes de stocks, il y a énormément de gens qui ont entre 1 et 5 millions d'euros de patrimoine. Et je vais aller même plus loin que ça. Tu as énormément de gens qui ont entre 1 et 2 millions d'euros de patrimoine. Le gros de la richesse en stock se situe à ce niveau-là. Tu as beaucoup de gens, en fait, qui dans la réalité n'ont que ça en patrimoine. Même des gens qui vont avoir des patrimoines impressionnants. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui, de prime abord, vont avoir un patrimoine impressionnant en termes de flux, qui va générer, je parle de mon métier, hein, de l'immobilier, je côtoie des gens qui ont un patrimoine immobilier qui génère un flux terrible, du genre 200 000 euros de revenus par an. Donc voilà, on est dans le haut du panier en termes de flux, et qui pourtant, au niveau du stock, vont avoir un stock ridicule. Et ça, c'est hyper intéressant comme réflexion, parce que là, tu commences à comprendre qu'en réalité, il y a une décorrélation qui est réel entre le flux et le stock, comme il peut y avoir une corrélation réelle entre le flux et le stock. Et tu as aussi, à l'inverse, des personnes qui vont avoir un stock énorme, donc 10, 15, 20 millions d'euros en stock, et qui vont avoir un flux de zéro, lié à zéro. Je te donne un exemple, tu vas posséder un château que tu obtiens en héritage familial qui est à ton nom propre. Eh bien, tu te retrouves avec le stock que je suis en train de te dire. Alors, le château, c'est un mauvais exemple parce que tu peux effectivement le monétiser, mais tu as des choses que tu peux détenir qui n'ont aucune production de flux. Et ça crée un déséquilibre, en fait. Et c'est vraiment intéressant parce que la finalité de ce niveau-là, qui fait de dire que tu es millionnaire, tu es riche ou tu ne l'es pas, c'est le cumul des deux. Et c'est vrai qu'on a tendance, à ne regarder que l'un ou que l'autre. Et en France surtout, on est très, très concentré sur le flux. On oublie très souvent le stock. Et d'ailleurs, je vais finir avec ça. Il faut savoir que c'est le point sur lequel vont jouer les riches. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à cacher le stock et à mettre en avant le flux, à donner à la personne qui regarde ce qu'elle veut voir et à cacher finalement la montagne derrière la forêt. Parce que si je te parle de mes revenus et que je te dis, moi, tu sais, je gagne 20 000 euros par mois, tu peux te dire, oh, le bâtard, il a un gros salaire, nanana, nanana. Et là, tu découvres, par le biais du plus grand des hasards, que j'ai 100 millions d'euros de patrimoine immobilier. Ben, c'est la grosse arnaque en fait. Parce que je dissimule mon stock derrière mon flux. Et mon stock est largement plus impressionnant que mon flux. Et tu peux même faire l'inverse. Alors, pas en France, parce que c'est pas un pays qui s'y prête. Mais voilà, des réflexions qui sont intéressantes. Comprendre ces mécanismes. Et je crois qu'on est toujours le pauvre d'un autre et le riche d'un autre. Parce que, justement, on se concentre que sur un seul de ces aspects. Alors qu'en réalité, c'est le tout qui donne le résultat et non un seul de ces points-là. Ça sera le mot de la fin sur cette deuxième partie. Allez, on conclut cette émission qui je trouve est très intéressante. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la note que tu me mettras à la fin de l'émission sur iTunes sera à l'image de la qualité de cette émission. T'as vu, je la veux ma note, je m'accroche, je lâche rien. Putain, mais ça prend deux secondes là. Tu prends ton téléphone, tac, tu me mets 5 étoiles, on n'en parle plus. Moi, je te fais des bisous. Bon, allez, dernière partie. Là. C'était une, ma parenthèse, je t'incite à faire un truc pour moi, quoi. La dernière partie, c'est je prends 20 conseils qu'on donne à des gens pour devenir millionnaire et je vois ce que j'en pense, d'accord ? Alors, se concentrer sur les profits, d'accord ? Donc, c'est, on va dire, un conseil qu'on peut donner à quelqu'un pour qu'il devienne millionnaire. Donc, l'idée, c'est de dire, tu vas te concentrer sur l'argent que tu gagnes. Alors, je suis complètement d'accord, bien évidemment, qu'il faut se concentrer sur l'argent que tu gagnes, mais pas que. C'est, pour moi, une des grosses erreurs que font beaucoup de personnes qui convoitent le million, qui convoitent les millions, qui convoitent l'argent. Ils se concentrent sur les profits et donc sur les flux, ce dont on vient de parler, et ils en oublient le stock. Il faut te concentrer sur l'ensemble. Et l'idée, c'est bien évidemment d'arriver à corréler les deux. Mais ça, selon ce que tu vas faire, c'est compliqué. Un autre conseil qui est très courant et qu'on donne très souvent, c'est développer de multiples sources de revenus. Alors, c'est un très, très bon conseil, mais il est tout le temps imparfait, ce conseil, parce que la vérité, c'est que c'est l'histoire de ce que nous ont dit tous nos parents, ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Ne mets pas tous les œufs dans le même panier. J'ai redit la phrase parce que c'était mal dit. En fait, oui, c'est vrai. C'est un très bon conseil. Multiplie tes sources de revenus. Mais moi, j'ai un petit complément à te dire. Au départ, tu vas devoir appuyer très fort sur une source de revenus pour ensuite développer les autres. C'est-à-dire que tu vas devoir malheureusement créer un déséquilibre pour créer, encore, je remplace ce mot, mais pour arriver à créer autour d'une chose, une vraie expertise, un vrai pilier sur lequel t'appuyer. Et après, autour de ce pilier, tu vas développer le reste. Tu ne peux pas, en tout cas difficilement, tout mener de front. Et ça, il faut l'accepter. On en a envie, on pense que c'est possible, mais c'est compliqué. Alors, changer la manière de voir l'argent. Alors ça, c'est un très bon conseil. C'est vrai que, bon, pour le coup, c'est un conseil qui est vraiment français, hein, j'ai envie de dire. C'est apprendre à parler d'argent, à aimer l'argent, à vivre avec l'argent. Et j'ai envie de te dire aussi, apprendre à se juger avec l'argent. Moi, tu sais, je rigole beaucoup en ce moment parce que je m'énerve par rapport, je parle d'enfants avec d'autres parents, tu vois, et je parle surtout des classes, en fait, de l'école. Parce que bon, ma fille n'est pas à l'école, mais un jour, elle va y aller. Et je suis désespéré de la France et de son système éducatif, puisqu'on en est arrivé aux couleurs. On est arrivé maintenant à noter nos enfants avec des couleurs. Et ma remarque par rapport à ça, c'est est-ce que ton salaire est en couleur ? Est-ce qu'on te dit, ah, ce mois-ci, tu vas avoir orange ? Le mois prochain, je te donne jaune. Non, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, on est dans un monde numérique, tout est noté, comparé. Tu vas allumer ton téléphone, tu vas noter un restaurant, tu vas avoir un nombre de vues, tu es payé, tu es comptabilisé avec de l'argent, tu es noté quelque part, puisque le revenu qu'on te donne, est-ce que c'est ta valeur ? On en parlera après, mais bon, voilà. Bref, tout est numérisé autour de nous, enfin, numérisé, pas numérique, hein, numérisé, j'emploie peut-être pas le bon mot, tout est quantifié en termes de nombre et à l'école, on nous donne des couleurs. Non, mais fous-toi pas de ma gueule, c'est vraiment une blague cette histoire. Non, je suis désespéré, donc apprends à aimer l'argent, accepte l'argent, c'est comme ça. Tu produis un service, il ne se vend pas, tu as fait de la merde, le marché n'a pas voulu de toi. Alors après, bon, on pourrait avoir un débat là-dessus, je ferai une émission là-dessus. Je vais faire une émission sur... c'est un truc, tu sais, pendant très longtemps, j'ai cru à une chose, j'ai cru au marché. Et récemment, là, il y a des choses qui m'ont fait changer d'avis. On en parlera, t'inquiète pas, je ferai une émission là-dessus. C'est un sujet, tu vois, regarde, tiens, c'est ce que je vais faire là, en direct avec toi. T'as raison, je me le note. Faire émission sur le marché. La notion de marché. En gros, je vais t'expliquer ça dans une autre émission, sinon celle-ci va durer trop longtemps. Ça fait déjà pas mal, hein. Donc, apprends à aimer l'argent, à l'accepter tel qu'il est et à réagir en fonction de ce que lui, enfin, en fonction de ses ajustements. C'est-à-dire que si tu produis quelque chose et que tu gagnes beaucoup d'argent, ben, développe-le et encaisse encore plus d'argent. Si tu produis quelque chose et que tu gagnes pas d'argent, ben, arrête et passe à autre chose. C'est ce qu'il y a de plus sain et de plus simple. Ok ? Toujours lié à l'argent. Alors, il y a un conseil qui est très souvent donné et très souvent en France, c'est ne pas frimer. Et là, je vais te dire oui et non. C'est-à-dire que ne pas frimer, oui, dans la mesure où, au début de ton processus d'enrichissement, effectivement, la frime n'a rien à voir dans le processus. Mais au fur et à mesure que tu grandis financièrement, il faut t'adapter. Et ce que certains vont appeler de la frime est parfois un très bon investissement. Je pense entre autres, aux voitures. La voiture peut être un très bon investissement, contrairement à ce qu'on cherche à te dire. Je ne vais pas développer plus que ça. Je vais juste te dire ce que je répète à chaque fois quand on parle de ça. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un des numéros 1 de vente d'assurance AXA. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire en France. Et il avait une Porsche. Je te laisse faire la fin de la réflexion. Alors, économiser. Ça, c'est aussi un conseil qu'on donne beaucoup, qu'on donne énormément sur les personnes qui veulent devenir millionnaire. Il faut que tu économises et tout, nanana. Alors, non. Non, c'est pas ça le vrai conseil. En fait, on te dit pas... Je pense que économiser n'est que le tiers du conseil ou le 1/20 du conseil. Le conseil, c'est mettre de l'argent quelque part, pas pour l'économiser, mais pour l'investir. C'est très différent, d'accord ? Mettre de l'argent sur un compte et le regarder comme la plupart des Français font, si tu m'écoutes d'ailleurs, je te le dis, tu fais la plus grosse erreur de ta vie, c'est de la merde. La poire pour la soif, putain, j'ai appris ce mot, ce terme il n'y a pas très longtemps, c'est de la merde, quoi. On s'en fout. De quoi tu parles, quoi? Investis, point à la ligne. Tu investis, si t'as plus de sous quand t'as investi, mais c'est pas grave, si t'as bien investi, l'argent va revenir, quoi. Faut pas raisonner en termes d'économie, faut raisonner en termes d'investissement. Je mets l'argent à cet endroit-là, et une fois que l'argent il est là, j'ai un retour sur investissement, et c'est ça que je mesure, point à la ligne. Si le retour est merdique, on revient à mon conseil d'avant, c'est que tu gagnes pas d'argent, tu vends et tu passes à autre chose. Easy, quoi. Enfin, je veux dire. Bon, c'est vrai que avec moi, la vie, elle est simple. Hein. Bon, peut-être un petit peu trop, mais je t'assure que si tu t'adoptes mes trucs, tu verras, ça marche très très bien, quoi. Alors, se fixer des objectifs très élevés. J'ai marqué un blanc, t'as vu ? J'ai envie de te dire très 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 élevé. Ne vise pas la lune, vise le soleil. C'est impossible, oui, parce que tu vas fondre. Je sais, ben, justement. Essaye de voir comment ça fait. Moi, souvent, on me reproche, on me dit bah, « t'es un rêveur ». Ouais, mais c'est les rêveurs qui ont refait le monde, mec. Faut comprendre que c'est pas grave d'avoir un gros objectif. Ce qui est grave, c'est de rien faire pour l'atteindre. D'accord ? Donc, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué de se fixer des objectifs fous parce qu'on est dans un monde, surtout en France, négatif, plein de jugements et où tout le monde a son avis à te donner. Donc, ne dis rien à personne, continue à écouter des mecs comme moi, continue à te motiver avec des gens, et puis voilà, tu verras comment ça finit, mais s'il te plaît, voilà, tu veux gagner 10 000 euros par mois, vise 20 000, tu veux gagner 20 000 euros par mois, vise 40, tu veux gagner 40 000 euros par mois, vise 50, 80, tu veux gagner 100 000 euros par jour, vise 200, tu trouves que 100 000 euros par jour, c'est pas assez, très bien, pense à Pablo Escobar, etc., etc. Il n'y a pas de limite. Oui, je sais ce que tu es en train de te dire. Ah, mais il est con, lui, il nous parle d'un mec qui est dans l'illégalité. Oui, mais Pablo Escobar, en ne desservant que les États-Unis, faisait autant d'argent que Henry Ford. Alors oui, je sais, tu vas dire, c'est de la drogue, Nicolas. Oui, je sais. Mais enfin, il faut comprendre. Il faut comprendre que ce mec est quand même rentré en politique. Il faut comprendre que ce mec l'a quand même fait. Et que c'est pas aujourd'hui, avec Internet, on n'est plus à essayer de comprendre qu'est-ce qui est légal ou pas ? On est à essayer de comprendre qu'est-ce que tu peux faire ou pas. Donc, ne te pose pas des questions comme ça. Dis-toi juste qu'il y a des mecs qui arrivent à générer des sommes folles et que tu peux le faire. Voilà, c'est tout. Donc, vise le soleil et fond. Parce que si tu commences à fondre, automatiquement, comme tu veux pas mourir, tu vas chercher une solution. Et si tu trouves la solution, il y en a d'autres qui vont venir avec toi sur le soleil, parce qu'on veut tous y aller en vérité. La vérité, c'est ça, c'est ce que personne te dit. C'est que, en fait, pourquoi personne en France, surtout, n'ose rêver, n'ose aller là-haut, machin ? Ben parce qu'en fait, voilà, les mecs, ils rêvent d'y aller, mais ils osent pas, parce que, voilà, ils sont raisonnables. Ben, sois déraisonnable. Moi, c'est mon conseil. Arrête d'être raisonnable, bordel. Sois fou. Et on s'aimera, toi et moi. Ça peut suffire. Ça peut suffire qu'on soit que deux, tu sais, à l'arrivée. Si on est sur le soleil, comme je te dis, ils voudront tous venir après. Donc, de toute façon, c'est bon. Alors, le fameux conseil que je déteste. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je le déteste. Parce que ce conseil, il est à la fois vrai, il est à la fois faux. Et je vais bien te l'expliquer. Et si tu m'écoutes et que tu es dans cette situation-là, tu vas comprendre. En fait, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est vrai, ce conseil est vrai dans la mesure où tu es une personne qui a quelque chose. C'est pas vrai ce que je suis en train de dire d'ailleurs. Tu vois, je suis en train de réfléchir en te le disant. C'est vrai dans la mesure où tu es une personne qui fait ce qu'il faut pour s'en sortir. Voilà. Donc, c'est ce qui est oublié dans cette phrase en fait. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, donc sous-entendu, fréquente des personnes. Ben voilà, qui gagne plus que toi. Moi, c'est comme ça que je comprends ce conseil, en tout cas. Je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, quand j'entends ce conseil, j'entends « va voir des gens qui gagnent plus que toi ». Ok, super, mais moi, voilà, par exemple, je te prends mon exemple. Je gagne 1000 euros par mois, admettons, et je veux fréquenter des mecs qui gagnent 50 000 euros par mois. La question, et je te la pose, et je me la suis posée, comment je fais pour aborder ces mecs-là ? Hey, salut, moi, je gagne 1000 euros par mois, mais je veux qu'on soit potes, parce que si je te fréquente, tu seras dans ma moyenne et du coup, je gagnerai plus. » Non, enfin, je veux dire, moi en tout cas dans ma vie, ça s'est jamais passé comme ça. Je fréquente des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi et bien évidemment que ça m'aide et ça me tire vers le haut. Je suis d'accord avec l'affirmation, qu'on soit bien d'accord sur la base. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. La réalité, c'est que pour fréquenter ces gens-là, moi je considère qu'il faut avoir, enfin, il faut être en mesure de proposer un échange, il faut être en mesure de parler d'égal à égal. Ou, dans la mesure où tu n'as rien à proposer, que tu sois dans le volontariat de sortir de ta situation et que tu sois dans la proposition, que tu sois, voilà. Si par exemple, tu te dis, tiens, je veux rencontrer Nicolas, j'ai vraiment envie de le rencontrer, j'ai vraiment envie de bosser avec lui, j'ai vraiment envie, machin, parce qu'en le fréquentant, je vais forcément gagner plus d'argent en immobilier, ça pourrait être une logique que tu pourrais avoir. Et grâce à nos fréquentations, ben, comme lui, je vais avoir plein d'appartements, nanana, c'est une logique que tu pourrais te dire. Bon. T'as plusieurs solutions pour me rencontrer. La première, très facile, tu prends mes programmes, tu viens sur une journée ici, on va se rencontrer. Ça, c'est le plus simple. Mais c'est pas comme ça que tu me fréquentes, on est bien d'accord. Donc, en venant, tu vas venir avec une arrière-pensée. Sauf que moi, je vais te recevoir dans un groupe et je vais parler avec toi. Comment tu fais pour m'aborder ? Il va falloir que tu sois percutant. Il va falloir que tu dises, que tu sortes un truc du genre... soit tu vas sortir un truc du genre... Bah, je vais prendre mon cas, excuse-moi, hein, c'est un peu facile. Mais soit tu vas sortir... tu as une compétence qui va m'intéresser, on va en parler, tu vas me proposer une association, etc. Là, là, ça va marcher. Mais par exemple, moi, il y a des gens qui me disent « Ouais, on va s'associer, on va faire des opérations ensemble. » Mais ça, j'en ai pas besoin. Tu fais, moi, je reçois des mails, de plus en plus de mails. Voilà. Là, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, quand je ne traite pas mes mails et que j'allume mon téléphone, d'une journée, il y a 36 mails en attente. Et puis le lendemain, il y en a 60, et puis etc. Tu vois, ça s'entasse. Donc bon, j'essaye de répondre à tout le monde. Tu peux m'écrire, hein, c'est avec plaisir. Je fais mon travail, il n'y a pas de problème. Bref. Des demandes de dire on investit ensemble nanana, pour que tu investisses avec moi quoi. Mais non, mais j'en ai pas besoin. Donc et puis on n'est pas potes. Donc tu vois, la question, c'est la question que moi je me suis toujours posée quand je transpose, tu vois, j'ai pas la réponse, mais moi quand j'arrive à créer du lien, c'est parce que dans mon cas souvent c'est l'immobilier qui fait créer le lien. Les gens ont besoin de mes services finalement, on va pas se mentir, hein, mais il y a qui sont mes potes aujourd'hui, hein, y a pas de problème, hein. Mais il y a des gens qui ont besoin de mes services, on parle immobilier, on crée un lien parce qu'on a des ponts communs, etc. On construit une relation et ça se construit comme ça. Mais si tu arrives et que tu n'as rien, il va falloir créer quelque chose. Et c'est là où je trouve que cette phrase, elle est un peu biaisée. Elle ne donne pas la réalité de la chose. Je pense que si tu arrives et que tu n'as vraiment rien, ça va vraiment être compliqué. Mais tu peux ne rien avoir et être volontaire. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire relancer la personne, venir vers elle, faire plus que les autres. Parce que tu sais, je vais te dire quelque chose. Et ça, on y est tous sensibles. Et ça sera un vrai conseil pour le coup. Tu sais, on a tous nos vies en fait. Et on n'a pas un gars qui veut être ami avec nous. Enfin, moi, ça m'est un peu arrivé des fois, des gens qui veulent vraiment nouer une relation avec moi. Mais ils abandonnent ou c'est pas... Tu vois, les gens avenants, il y en a de moins en moins. Il y en a, mais il y en a de moins en moins. Tu sais, Tu connais peut-être Enzo, d'ailleurs Enzo Honoré, si tu m'écoutes, voilà, on s'apprécie vraiment et c'est réel ce que je suis en train de dire. Enzo, il y a réellement un truc que j'ai apprécié chez ce garçon et c'est pas explicable en fait. Et il n'y a pas toujours des explications à ça, mais il y a cette espèce. Et je pense que je suis pas le seul à avoir ressenti ce truc-là pour ce jeune. Enfin, ce jeune-là, on n'a pas beaucoup d'écart, mais pour ce mec-là, c'est parce qu'il a une espèce d'enthousiasme, il est avenant, il va m'écrire de temps en temps. C'est un gars qui crée de la relation, tu vois. Et ça, c'est bonnard. Et d'ailleurs, contacte-le. C'est un gars, il a des trucs à t'apprendre sur ce sujet-là. Ce mec-là a des trucs à t'apprendre. Donc, voilà, c'est vrai que il faut, si tu n'as vraiment rien, que tu développes ces compétences-là. C'est très difficile. Je te conseille de lire le livre de Dan Carnegie, « Comment se faire des amis ». Moi, je l'ai lu, ce bouquin. Très bon livre, de très, très bons conseils, vraiment. Un livre à lire absolument. D'ailleurs, il y a des grands trucs que j'ai gardés, tu vois, et que c'est des défauts que j'ai, que j'arrive pas à mettre en place. Je connais beaucoup de monde, en fait, parce que avec mon humble carrière sportive, il m'arrive encore d'être reconnu par rapport à la natation. Et c'est vrai que ça fait plaisir, mais surtout, je connais des gens, en fait, et du coup, j'oublie toujours les prénoms. Et c'est très con, mais ne pas oublier le prénom de quelqu'un que tu rencontres, ça a énormément d'importance. Ça, tu vois, c'est un des trucs qui m'a marqué dans le livre de Dale Carnegie, mais bon, bref, voilà. Bref, ça c'était pour la partie des 5 personnes, c'est le fameux truc que je déteste. Bon, il y a un truc qu'il faut que j'aborde, et c'est le moment de l'aborder, c'est forme-toi. Forme-toi, investis sur toi, c'est quelque chose qui est vrai. Je ne peux pas dire le contraire, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres, je suis quelqu'un qui adore apprendre, j'ai toujours appris, j'ai repris mes diplômes sur le tard, je suis obligé de reconnaître que c'est vrai et je sais qu'en France, on n'est pas du tout axé là-dessus. Pour te donner un ordre d'idée, les États-Unis sont le premier pays, en tout cas sont le pays où les personnes investissent le plus d'argent dans leur éducation. C'est le premier pays au monde où il y a le plus d'investissement sur l'éducation qui est fait sur une personne. Alors, c'est un mauvais exemple puisque là-bas, l'école est payante, mais les Américains ont très vite compris que payer pour de l'information, ça avait de la valeur. Et à l'inverse, notre système à nous en France est construit à l'inverse puisque tout est gratuit chez nous et donc fatalement, tu comprends que chez nous, l'information n'a aucune valeur. Mais pour autant, essaye de comprendre. Je vais te donner un exemple qui est très amusant. Combien tu me payerais pour avoir les codes d'accès de mes comptes en banque ? Alors... Mais c'est ça tout l'enjeu, tu vois. J'adore cette question. Je te jure, elle est énorme. Réfléchis-y 2 secondes. Tu sais que j'ai des appartements. J'en ai plusieurs. Donc, tu sais qu'il y a un fonds de roulement. Tu peux trouver globalement, tu peux te faire une idée du nombre d'appartes que j'ai. Parce que si tu regardes mes vidéos, celles qui restent, normalement, si t'es pas trop con, tu dois pouvoir y arriver. Tu dois pouvoir calculer à peu près le fonds de roulement que j'encaisse. Tu dois pouvoir y arriver aussi. Je pense que c'est pas impossible. Tu dois pouvoir te faire une idée de l'argent qu'il y a sur les comptes. Ça, c'est plutôt difficile, je le reconnais, mais tu dois quand même pouvoir t'en faire une idée. Et donc, je te pose la question, à ton avis, combien vaut mes codes d'accès ? Je veux dire, mes codes d'accès, c'est des chiffres et des lettres. C'est juste une information, en fait. C'est une information qui est notée quelque part dans mon cerveau, qui est notée dans une application verrouillée, qui est notée quelque part, et que je peux te transmettre. Rien m'empêche aujourd'hui de te vendre cette information. Je te dis, ben voilà, je te donne mes comptes d'accès, tu pourras faire des virements. Voilà mes codes. Et tu peux faire ce que tu veux pendant une journée, voilà. Et tu peux même les changer, je suis niqué, etc. Mais pose-toi la question, combien tu payerais ça ? Et tu vas voir que si tu te mets sincèrement à faire l'exercice, tu vas donner une valeur à ce truc-là. Tu vas te dire, bah, c'est vrai qu'en fait, ces codes, je donnerais tant. Donc, c'est un mot, c'est quoi ? C'est même pas un mot, c'est une succession de lettres et de chiffres. Ça n'a aucun sens, c'est une information qui n'a aucun sens. Je te donne un truc qui n'a aucun sens. Et pourtant, tu payerais pour l'avoir parce que tu sais que derrière, le prix que tu le payerais, tu serais capable d'avoir un retour sur investissement parce que tu te ferais un virement qui serait supérieur au montant que tu m'aurais donné. Donc, ça prouve la valeur des informations. Et si tu arrives à comprendre ce mécanisme, bah tu comprends que ça a une valeur. Par contre, et je vais le reconnaître, c'est un mécanisme qui est très dur à intégrer. Et ça, je le reconnais. Et pour autant, quand tu franchiras ce pas-là, il faut que tu le fasses à ton rythme. Si tu n'es pas prêt d'investir dans des programmes, dans des trucs, ne le fais pas. Fais-le le jour où tu es prêt. Mais le jour où tu seras prêt à le faire et que tu vas commencer à le faire, tu vas comprendre tout ce que tu as raté en fait. Et là, tu vas mesurer l'erreur que tu as pu faire, etc., etc. Allez, on termine avec le dernier truc. Je t'en ai parlé, je t'ai teasé cette dernière partie qui sera le vrai conseil, le conseil de cette émission, le truc que je veux que tu gardes en tête. Okay ? J'ai fait une vidéo qui s'appelle 1 million où je t'ai dit qu'il fallait le plus vite possible avoir 1 million d'euros de patrimoine et je pense qu'il te faut avoir effectivement le plus vite possible 1 million d'euros de patrimoine. Mais c'est aussi un mensonge parce que la vérité, c'est qu'il te faut viser les 10 millions d'euros de patrimoine. Il te faut avoir 10 millions d'euros de patrimoine. C'est très très important, écoute bien ce que je suis en train de te dire. En fait, la vérité, c'est pas le million, c'est les 10 millions. Et je vais te l'illustrer avec un truc tout simple. Tu sais, à un moment donné, je ne vais pas me cacher, je n'ai pas honte, j'avais pensé faire une formation sur YouTube. Parce qu'en fait, YouTube, j'ai tellement... je kiffe cette application et je continuerai à faire des vidéos. Hein. Ne crois pas que je ne vais plus faire de vidéos, bien au contraire. Hein, ce n'est pas du tout ce que tu peux t'imaginer, tu vas voir. Tu vas comprendre, ce n'est pas la question. Et tu sais, sur YouTube... Sur toutes les applications que tu peux imaginer, on te dit très vite, enfin, on t'explique qu'il te faut avoir 1000 vrais fans. Donc, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu cette phrase, il te faut avoir le plus vite possible 1000 vrais fans. Et je vais te dire un truc, c'est un mensonge en fait. Ce n'est pas vrai. En réalité, il te faut avoir 10 000 abonnés pour avoir tes 1000 vrais fans. Tant que tu n'as pas tes 10 000 abonnés, tu n'as rien. Quand tu auras les 10 000, là, tu auras tes 1000 et du coup, conséquence, ça va commencer à marcher. C'est très, très amusant parce que j'ai mis très longtemps à comprendre. En fait, c'est tout con, l'esprit humain, il est fait comme ça. Quand on te parle de 1000 vrais fans, donc toi, tu cherches à avoir 1000 abonnés. Mais avec 1000 abonnés, si tu as 50 fans, c'est le bout du monde, quoi. Et donc, c'est là que tu commences à comprendre qu'en fait, même en ayant 10 fois ça, j'aurais même tendance à dire qu'il vaut mieux plutôt avoir 20 000 abonnés pour être sûr d'avoir tes 1000 vrais fans. Et donc, essaye de comprendre que pour avoir réellement ton vrai million d'euros, être sûr de l'avoir, il te faut tes 10 premiers millions d'euros net dans ta poche. Et là, tu es sûr d'avoir ton million d'euros. Et voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Ne vise pas simplement le million. Bien sûr que c'est bien d'avoir un million. Bien sûr que de dépasser le million, ça change les choses et ça commence à avancer pour toi. Mais ne te voile pas la face. Le vrai objectif, c'est les 10 millions. Et tu dois avoir 10 millions de patrimoine pour commencer à peser dans le game et tu commences juste, t'es loin du compte. Donc voilà, c'était le dernier conseil, c'est ce dont je te parlais à un moment donné, que je t'ai dit que je t'en parlerai plus tard. Donc la question, à quoi ressemble un millionnaire français? On y a déjà répondu, c'est finalement quelqu'un qui a, je te le rappelle, au moins 2,5 millions d'euros net de patrimoine et plus de 5 000 euros de revenus. Donc enfin plus de, on va dire plutôt, moi je suis parti sur 90 000 euros de revenus annuels parce que c'est pour moi la vraie barre de la richesse, en tout cas la barre qui te fait rentrer dans les fameux 1%. Après, il y a plein de subtilités, on les aura vues ensemble. Je t'ai donné ensuite dans cette émission, ben, finalement, j'ai réagi à tous les conseils qu'on peut te donner pour devenir millionnaire. Tu as une très longue émission et tout ce qu'il faut pour le devenir à ton tour. Si tu aimes mon état d'esprit, eh bien, pense à noter cette émission. J'arrête pas de te le répéter, mais c'est tellement important pour moi. Tu peux travailler avec moi sur le site, tu peux faire tout ce que tu veux, on peut se rencontrer si tu prends un de mes programmes. Tu sais que j'adore passer ce temps avec toi. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Je te fais les bisous. Salut.